Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission de la Junior Association Solidarité United 82.
Autour de la table, il y a Alissa.
Bonjour.
Anissa.
Bonjour.
Wydad.
Bonjour.
Laurine.
Bonjour.
Zakaria.
Salut.
Omar.
Salut.
Et Ryan.
Salut.
Au programme, la visite d'une expo de volcans au musée d'histoire naturelle.
Une rencontre avec la directrice de ce musée, Aude Bergeret.
Une chronique foot avec Ryan.
La gastronomie italienne avec Omar.
Une rubrique mode à l'italienne avec Anissa, Laurine et Wydad.
Et c'est Zakaria qui fait la musique de cette émission.
Je vais vous proposer d'écouter une musique de Rocco Hunt. C'est un rappeur italien, son vrai nom est Rocco Pagliarulo. Il est né en 1994 à Salerne. Il a commencé à rapper en 2012. Rocco Hunt a réalisé 3 albums, Poeta Urbano, A Verita et Signor Hunt. Et je vous propose d'écouter un de ses tubes les plus connus, Wake Up.
In questi giorni ero un po' triste ed ho fumato un po' di più. Mi sono fatto 2 risate con la politica e TV. Canta insieme a noi, wake up, why you? Zumba insieme a noi, wake up, why you? Questa generazione non vi crede perché un futuro vero non si vede. Lo Stato non ci sente, specialmente a noi del Sud. Un lavoro manca sempre, per fortuna abbiamo il groove. E anche se sto palazzo mo cade a pezzi, a signore vo sempre sold. E preghiamo ogni giorno sperando che non si esaurisca, funziona o non. Ogni giorno che abbiamo perso, forse non ritornerà. Ma in mezzo a tutto sto bordello, sento un pezzo che mi fa. Canta insieme a noi, wake up why you, zoom insieme a noi, wake up why you. Questa generazione ancora siete, nonostante voi che ci illudete. Wake up why you, scendate voi che l'aria è toscio. Wake up why you, su strada più ci un croscio. Ed alzasse la mano chi non ha futuro, chi lavora sempre ma non sta sicuro. Wake up why you, wake up why you. Voi parlate di futuro e intanto cade un'autostrada. Nei programmi il pomeriggio imbambolate questa Italia. Canta insieme a noi, wake up why you, somma insieme a noi, wake up why you. Fin quando avremo voce canteremo, chi lo fa in stanzetta e chi lo fa Sanremo. Lo stipendio non arriva, tutti i mesi fa ritardo. Noi con la partita IVA moriremo qua aspettando. E anche se sto paese mo cade a pezzi, un governo mo sempre sold. E preghiamo ogni giorno sperando che per lavorare non ha mai un hort. Wake up, why you? Scendate da gallaria e toscio. Wake up, why you? Su sala mi ci avvisa un groscio. E da tasse la mano chi non ha futuro, chi lavora sempre ma non sta sicuro. Wake up, why you? Tutto il tempo che è passato non ritornerà più. Wake up, why you? Se per caso mi addormento non è uscito, ma tu wake up, why you? Wake up, why you? Un giorno saremo felici, quel giorno io spero che non sia lontano. Non dimentico mai le radici, perché in questa terra c'è scritto chi siamo e che futuro avremo noi, cresciuti senza direzione, tutti dietro le tastiere e mo che fa rivoluzione. Wake up, why you? Scendate da gallaria e toscio. Wake up, why you? Su strada mi ci avviso un croscio. Ed alzasse la mano chi non ha futuro, chi lavora sempre ma non sta sicuro. Wake up, why you? Tutto il tempo che è passato non ritornerà più. Wake up, why you? Se per caso mi addormento non è uscito, ma tu wake up, why you? Wake up, why you? Sveglia!
Quels sont les artistes italiens que vous connaissez?
Aucun.
Laura Pausini.
Michel-Ange.
Aucun.
Michel-Ange, Léonard de Vinci.
Botticelli.
Quand on vous dit Italie, quels sont les plats qui vous viennent en tête?
Ah ben les spaghettis, les pizzas.
Les pâtes.
Les spaghettis.
Les pâtes. Pizza, mozzarella.
Le risotto, non?
Lasagne.
La pasta asciutta.
Vous connaissez diverses au monument d'Italie ou pas?
La tour de Pise.
Le Colisée à Rome.
La tour de Pise.
Tour de Pise, Colisée, le Duomo, le Vatican.
Saint-Pierre.
Le musée de la Résistance propose une expo sur l'immigration italienne. Laurent Serici nous la présente.
Votre exposition, elle a été basée sur les papiers qu'on vous a passés ou vous avez déjà prévu votre exposition ensuite?
Alors en fait, à la base, on nous a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire sur l'Italie. Et on a pensé avec Monsieur Leroy, le directeur des archives, à l'immigration italienne. On est allé faire des recherches aux archives départementales. On a lu des livres qui sont à côté. Ça nous a permis de nous appuyer sur ce que eux ont écrit pour après réaliser les panneaux que vous avez sur les murs. Et on a aussi emprunté certains documents aux archives départementales, comme par exemple les déclarations de loyalisme qu'on avait fait signer aux Italiens, donc à la déclaration de guerre.
Qui sont ces gens et pourquoi en fait les exposer comme ça?
C'est une photo qui nous a été prêtée par une famille d'Italiens. On l'a fait agrandir et on l'a choisie parce que c'est le symbole de l'immigration italienne. Pourquoi? Parce que quand on parle d'immigration italienne, on parle de famille. Et là, on a une famille complète avec les parents, les enfants et les petits-enfants, voire les générations futures. Donc, c'est l'image représentative de la famille italienne et le monde rural dans le Tarn-et-Garonne.
Pourquoi la France elle a demandé l'armistice?
Alors, c'est pas la France, l'Italie a demandé l'armistice, oui. En fait. C'est tout simplement le 10 juin 1940, l'Italie fasciste déclare la guerre à la France, qui se bat déjà contre l'Allemagne. Et on ne peut pas continuer à se battre, de ce fait, on va signer l'armistice entre la France et l'Italie.
Est-ce qu'il suffisait d'avoir un passeport pour que les Italiens aillent en France?
Alors, tout à fait, mais il fallait certaines conditions. Pour pouvoir partir en France, il fallait l'accord du gouvernement fasciste italien. Donc, il fallait avant tout que l'Italie vérifie qui vous étiez et dans les conditions dans lesquelles vous partiez. Beaucoup d'Italiens sont aussi partis de façon illégitime, illégale, ont traversé les Alpes pour venir se réfugier en France. Et là, vous avez des documents dans cette vitrine qui sont assez intéressants parce que on peut regarder là ce document-là, qui est en fait un document donné par le gouvernement italien fasciste, qui donne des conseils pour avoir un bon comportement à l'étranger de ses ressortissants. Il ne fallait pas que les Italiens qui partaient à l'étranger donnent une mauvaise image de l'Italie. Donc, on leur donnait en fait, c'était des règles de savoir-vivre et comment se comporter à l'étranger. Ça, c'est fait par le gouvernement fasciste italien. Et dans la vitrine à côté, on a la même chose qui a été donnée par le clergé italien à ses ouailles. Voilà, pour dire justement comment se comporter. Autre chose, ce petit sac-là, qui est en très très bon état, c'est un sac qui a traversé les Alpes et la famille qui la possède nous a raconté que les grands-parents qui l'avaient avaient toutes leurs affaires là-dedans. Ils n'avaient que ça pour traverser les Alpes. Donc c'est vraiment tout petit.
Quelle était la religion des Italiens?
Alors, les Italiens sont essentiellement catholiques pour la grande majorité d'entre eux et très pratiquants en Italie. Et quand ils sont arrivés en France, les Italiens ont amené aussi leur religion et ça a été très agréable pour le clergé français, les prêtres français, parce que depuis quelques années, les Français allaient un peu moins à l'église. Et dans le Tarn-et-Garonne, les églises se sont de nouveau remplies, justement, parce que cette manne italienne était présente. Il y avait même certaines messes qui étaient dites en italien. Et certains prêtres italiens étaient venus aussi en France pour s'occuper de ces immigrés italiens avec eux. Ce sont des cartes qui sont tirées du livre de Monsieur Veglia, qui représente donc la répartition des Italiens dans les communes du Tarn-et-Garonne, en fonction de la proportion, enfin du nombre total de la population en 1938. Donc évidemment, les zones les plus foncées situent les endroits où il y a beaucoup plus d'Italiens que dans les restes du département. Sachant qu'ils sont essentiellement répartis autour des terres les plus fertiles et où on pouvait le mieux travailler. Il y a certaines terres dans l'est ou du département, le nord-est, où là on est en pleine montagne, c'est plus difficile de travailler le terrain à ce niveau-là. Je souhaite aussi préciser une chose, c'est que beaucoup d'Italiens sont venus en 1930 au moment des inondations, et essentiellement des Vénètes. Et les Vénètes viennent de la Vénétie, et la Vénétie, c'est Venise. On les a fait venir, pourquoi? Parce que c'était des gens qui savaient travailler la terre et travailler l'eau. Voilà. Donc ils ont aidé justement pour la reconstruction suite aux inondations de 1930.
Ce berceau, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est un berceau qui a été construit par l'arrière-grand-parent des personnes qui nous l'a prêté. Et il a été construit pour accueillir les petits-enfants. Et en fait, quatre générations d'Italiens ont été bercés dans ce berceau qui est en très très bon état et exposé ici au musée. Voilà, il nous a été prêté. Et donc il a été fabriqué en Italie. Il a traversé les Alpes en même temps que le joug de bœuf qu'on voit là-bas. Ils sont issus de la même famille. Il faut savoir aussi que tous les objets qui sont exposés ont été prêtés par des familles italiennes ou des descendants de familles italiennes. C'est ce qui nous a permis d'animer cette exposition de façon très agréable et de façon très ludique.
Merci.
passeport individuel, mais c'est un passeport familial.
Donc vous pouvez avoir deux photos, trois photos sur les passeports pour pouvoir circuler.
C'est
étonnant, ça. Et là, sur cette demande de visa qu'on a fait reproduire, qui est aux archives départementales, on a fait en sorte d'enlever les agrafes pour montrer que les demandes de visa ne touchaient pas que les hommes célibataires, mais aussi les familles. Et là, c'est une maman qui part avec ses trois petits, qui demande à retourner en Italie, mais pour un séjour court. En général, les demandes de visa, on avait soit sortie définitive, soit aller-retour. Et quand les Italiens, qui étaient en France depuis quelques années, retournaient en Italie, c'était soit pour présenter les petits qui venaient de naître, les enfants qui étaient nés depuis peu, soit aussi parce qu'il y avait un décès dans la famille, ou alors pour des affaires familiales, voire des domaines à vendre, ce genre de choses. Voilà.
Okay. Nous remercions Laurence et Richer de nous avoir présenté l'exposition « Memoria, notre histoire italienne ».
Et maintenant, la gastronomie italienne avec Omar.
Alors, je vous ai préparé le top 5 des plats goûtés absolument lors de votre voyage en Italie.
Bon, alors, en cinquième position,
l'expresso et le cappuccino. Le café est une vraie tradition en Italie. En plus d'être délicieux, nous adorons les rituels du matin des Italiens. Avant d'aller travailler, c'est une habitude de prendre l'expresso au comptoir et d'échanger quelques mots avec son voisin. Pour les gourmands, on peut remplacer l'expresso serré par un cappuccino gourmand.
D'accord, la quatrième place maintenant?
Le graissin et le parmesan. Le graissin est une sorte de petite baguette de pain dur, souvent saupoudrée de graines de sésame. Le graissin se mange seul ou enroulé de charcuterie.
Alors le podium maintenant avec la troisième place?
Les cornetto. Il faut savoir qu'en Italie aussi, la pâtisserie est une spécialité culinaire. Ici, les croissants et les pains au chocolat s'appellent cornetto. Ils sont fourrés de crème et saupoudrés de pépites de chocolat. Un régal.
Le deuxième?
C'est les pâtes. En Italie, les pâtes se mangent comme une entrée et pas en accompagnement d'un plat comme nous avons l'habitude en France.
Et maintenant, le top 1, le premier?
C'est la pizza. C'est le cliché gastronomique le plus célèbre, mais oui, la pizza est la spécialité de l'Italie. Pour manger une vraie pizza italienne, il faut la goûter dans la pure tradition, avec seulement de la mozzarella, de la tomate fraîche et du basilic. Bon appétit!
Ça donne faim. La suite de notre émission après la pub.
CFM à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
Nos commerçants de proximité, c'est la vie qui bat au cœur de nos villes et villages. Passionnés par leur métier, ils s'engagent chaque jour pour vous offrir le meilleur. L'accueil, le service, la convivialité. Ensemble, ils dynamisent vos centres-villes et font émerger des idées nouvelles pour le commerce. Samedi 2 avril, la Fédération départementale des associations de commerçants du Tarn et Garonne et ses partenaires leur décerneront les premiers trophées du commerce de proximité. 4 trophées pour récompenser le dynamisme, le professionnalisme et l'esprit d'innovation de vos commerçants. Vivre ici, consommer ici, les valeurs du commerce de proximité.
Après un hiver plutôt indécis, le printemps arrive enfin. C'est le moment de repenser vos extérieurs. Les salles d'exposition Espace Obad vont vous y aider. C'est la saison des promotions sur le carrelage terrasse. Effet bois, effet pierre, effet béton, carrelage sur plots prêt-à-poser et pourquoi pas de magnifiques émaux de verre pour votre piscine. Retrouvez le catalogue terrasse et toutes les idées d'aménagement extérieur dans votre Espace Obad le plus proche à Montauban, Millau, Rodez, Albi, Figeac et Villefranche-de-Rouergue.
Rendez-vous rugby à Montauban, vendredi 1er avril à 19h. L'US Montauban accueille l'Aviron Bayonnais. Guerrier vert et noir, le pouvoir de Sapiac est en toi. L'USM face à Bayonne, c'est vendredi 1er à 19h à Sapiac. Dès maintenant, réservez vos places et retrouvez l'actu du club sur www.usmsapiac.fr.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 930 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
Ressable, les 9 et 10 avril à l'espace Bonaïs, c'est le salon des énergies dédié aux médecines douces, au bio, à la nature et au bien-être. 25 conférences, plus de 80 exposants, ateliers adultes et enfants, espaces soins et restauration bio. Conférence d'inauguration le samedi 9 avril de 18h30 à 20h30 par le vénérable Tony Lobsang. Passe découverte de soins 20 euros. Organisé par l'association Essentielle au profit de l'association Les Nez Rouges avec le Lyons Club de Caussade. Les 9 et 10 avril à Caussade, c'est le salon des énergies. Entrée gratuite. Renseignements sur énergie-nature-santé.fr.
CFM.
CFM.
En direct de la place nationale. 101.2.
L'esprit rock.
Bonjour à tous, j'ai l'honneur d'être en présence de Madame Aude Bergeret, directrice du Muséum Victor Brun à Montauban.
Bonjour.
qu'est-ce qui vous a amené à devenir directrice de ce muséum ?
Alors, tout d'abord, mon parcours scolaire. J'ai un parcours universitaire dans le domaine de la paléontologie, donc l'étude des fossiles, et de la géologie, donc l'étude des roches. Et puis donc, suite à ce parcours, j'ai essayé de voir quel milieu professionnel pouvait y correspondre le plus. Et c'était effectivement les musées. Et donc, je me suis renseignée. J'ai déjà commencé par travailler temporairement dans un musée. Ça m'a donné envie. Et donc, ensuite, j'ai passé les concours qui m'ont permis de pouvoir postuler dans ce milieu professionnel. Et après plusieurs expériences dans divers musées en France, j'ai pu trouver ce poste au Muséum d'Histoire Naturelle.
D'accord.
Depuis quand êtes-vous directrice de ce musée ?
Alors, je suis arrivée au muséum en 2012, donc en janvier 2012. Et avant, j'étais dans un musée dans le Cantal, en Auvergne, qui était plus un musée art religieux, art populaire, archéologie.
Comment ça se passe, l'arrivée de tous les animaux là empaillés au musée ?
Alors, comment est-ce que ça se passe ? Alors, il faut savoir en fait que le muséum, il date de 1852. Il a été créé en 1852. Il a ouvert au public en 1854. Et en fait, c'était des érudits de Montauban, donc des gens, des naturalistes qui avaient des collections d'histoire naturelle, qui ont décidé d'en faire profiter le public, les Montalbanais, et qui ont demandé à la mairie de créer un muséum. Et la mairie a répondu favorablement et leur a donné une salle donc au deuxième étage du bâtiment où il est toujours aujourd'hui, et ils ont installé les collections à l'intérieur. Donc les collections, majoritairement, elles viennent du 19e siècle, donc c'est des collections anciennes. Alors aujourd'hui, pour répondre plus à ta question sur comment est-ce qu'on fait rentrer des spécimens, alors en fait, ça peut être pour des espèces qui sont pas protégées, ça peut être des particuliers qui peuvent nous les amener. Alors le mieux, c'est quand même de téléphoner avant et de dire, j'ai cette espèce-là, est-ce que ça peut vous intéresser ? Après, pour tout ce qui est espèces protégées, c'est plus compliqué, il faut des autorisations. Ensuite, il peut y avoir aussi des accords avec des parcs animaliers aussi de temps en temps, mais surtout pour les grands musées et les grands muséums.
Quel est l'animal vedette du Muséum d'Histoire Naturelle ?
Ah, alors, pour le public ou à titre personnel ?
Les deux, alors.
Alors, l'animal vedette du muséum, je pense que celui qui impressionne le plus et qui est dans la tête des Montalbanais, c'est l'éléphant. Puisque c'est on appelle l'éléphant du cirque Pinder. Il a été donné par William Pinder, qui est un des deux frères fondateurs du muséum. Donc c'est l'élément, qui est assez emblématique du musée. Moi, à titre personnel, je sais pas si j'en ai un vraiment. Je pense qu'ils ont tous leurs particularités. Moi, j'aime beaucoup les félins, mais après, il y a beaucoup d'oiseaux. Ils ont tous des couleurs différentes. Je dirais je pense pas avoir de préférer, mais j'aime assez les félins. Mais c'est vrai que l'éléphant est assez emblématique pour le public.
Je voulais savoir si tous les animaux dans le musée sont des vrais ou s'il y en a qui sont faux.
Alors, la majorité des animaux sont des vrais, c'est-à-dire que c'est des animaux qui ont été... Alors, à l'époque, on disait empaillés, aujourd'hui, on utilise plutôt le terme de naturalisés. Après, il y a certains animaux qui sont des moulages, notamment au niveau des serpents et des lézards. Mais quand c'est comme ça, sur la petite étiquette qui accompagne l'animal, vous avez marqué « moulage ». S'il n'y a rien de marqué, ça veut dire que c'est un vrai animal qui a été naturalisé.
Comment se passe la mise en scène de tous ces animaux ?
Alors la mise en scène, alors on parle de scénographie ou de muséographie. Souvent, il faut partir d'une thématique, on se pose la question. Alors ça, il y a quelques années, par exemple, dans la deuxième salle, pour ceux qui connaissent le musée, il y a des grandes vitrines tout le long d'un mur avec les milieux naturels du Tarn-et-Garonne. Donc quand c'est comme ça, on se dit, on va faire des vitrines sur les milieux naturels du Tarn-et-Garonne. Donc elles étaient déjà présentes quand moi je suis arrivée, mais pour prendre un exemple. Et donc là, on décide en fait, une fois qu'on a la thématique, de se dire les milieux naturels qu'on trouve le plus, ça va être les jardins, la forêt, les milieux humides. Et ensuite, on essaye de voir quelles sont les espèces emblématiques qu'on peut avoir. Alors, et on essaye de voir comment on peut les mettre en scène. Alors, il faut savoir qu'un animal, quand il est naturalisé dans une position, il peut plus en bouger. Donc soit on se base sur ce qu'on a dans les réserves avec les positions et on essaye de voir quelle mise en scène on peut faire autour. Par exemple, un oiseau, il peut être posé sur une branche. S'il a les ailes écartées en vol, à ce moment-là, on va le suspendre. Si par exemple c'est un oiseau, on dirait qu'il est en train de picorer au sol ou de regarder un oiseau aquatique, on va lui mettre un plan d'eau, enfin imitation de plan d'eau. Donc soit on essaye de faire avec les positions, soit si vraiment on veut montrer quelque chose en termes de position qu'on n'a pas, on peut avoir la chance d'avoir quelque chose qui n'est pas encore naturalisé et qu'on on peut choisir la position qui nous permette de réaliser cette mise en scène. Et après, on travaille les éléments du décor comme un cinéaste pourrait le faire pour un décor de cinéma, pour mettre tout ça à la vie.
Et en tant que directrice, quelles sont vos principales occupations vis-à-vis du musée ?
Alors, mes principales occupations au quotidien, c'est déjà essayer de veiller à la bonne conservation de tous ces spécimens. Donc, on réfléchit à un chantier des collections pour essayer de les nettoyer, de les dépoussiérer, de réaliser une veille aussi pour voir si on n'a pas d'infestation. Donc, régulièrement, donc avec les collègues, on regarde si on voit pas des poils sur les socles ou des plumes qui tombent. Avec les positions et on essaye de voir quelle mise en scène on peut faire autour. Par exemple, un oiseau, il peut être posé sur une branche. S'il a les ailes écartées en vol, à ce moment-là, on va le suspendre. Si par exemple c'est un oiseau, on dirait qu'il est en train de picorer au sol ou de regarder un oiseau aquatique, on va lui mettre un plan d'eau, enfin imitation plan d'eau. Donc soit on essaye de faire avec les positions, soit si vraiment on veut montrer quelque chose en termes de position qu'on n'a pas, on peut avoir la chance d'avoir quelque chose qui n'est pas encore naturalisé et qu'on on peut choisir la position qui nous permette de réaliser cette mise en scène. Et après, on travaille les éléments du décor comme un cinéaste pourrait le faire pour un décor de cinéma, pour mettre tout ça à la vie.
Merci Aude Bergeret, au revoir. Et maintenant, par la magie de la radio, on se téléporte au musée Victor Brun.
Pourquoi vous êtes dirigée dans ce type de musée et pourquoi cette exposition ?
Eh bien, en fait, j'ai ma petite fille aujourd'hui et je voulais faire autre chose que rester à la maison ou aller au cinéma, des choses un peu qu'on peut faire facilement. Donc aujourd'hui, on avait envie d'aller voir de culturel, de montrer plein d'espèces diverses, des choses qu'on ne connaissait pas. Et c'est un moment d'émerveillement, hein. On est toujours en train de dire « Oh, c'est beau, les couleurs !»
Pour sortir mes enfants, tout simplement.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez vu ?
Mais je ne connaissais pas du tout, donc ça me permet de voir d'autres animaux qu'on ne voit pas souvent.
C'est de voir tous ces animaux, qu'il y en a plein que je ne connaissais pas, que je ne savais même pas qu'il y avait tous ces animaux qui existaient.
Qu'est-ce que vous pensez autour de cette expo ?
C'est un musée que je ne connaissais pas, c'est la première fois qu'on s'y rend. Et c'est vrai que la variété des espèces exposées est vraiment importante et on découvre finalement des spécimens qu'on n'imaginait même pas.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?
Ça fait 34 ans.
Et est-ce qu'il y a une raison ? Vous êtes passionné ? Vous êtes...
Ben oui, déjà j'aime la nature, j'aime les animaux. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvé ici.
Est-ce qu'ils sont morts, les deux renards ?
Ah oui, ils sont morts, oui. Comme le reste des animaux.
Et vous aimeriez faire ça toute votre vie, ça vous plaît ?
Bon, ben, tu sais, maintenant, je suis sur la fin là, de ma carrière. Dans 2 ans, j'ai fini, alors. Voilà.
D'accord, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Vous écoutez l'émission de la Junior Association Solidarité United 82.
Nous allons écouter un son de Francesco Vigorelli, mieux connu sous le nom de Jack La Furia. Lui aussi est un rappeur. Il est né en 1979 à Milan. Musique commerciale et son premier album du rappeur Jack La Furia. Et nous allons écouter un de ses morceaux, El Chapo.
Questa scena sarà solo una carcassa. Nel rap è come nella vita, frate, tutto passa. Io non torno per il rullante, torno per la cassa. Mi dicono Mister La Furia, bentornato a casa.
1021 lettere che le trasformo in dinero. Sono stato di più a funerali che feste, perciò vesto sempre di nero. Chiudimi dentro una gabbia con sti quattro scemi e vediamo poi chi ne esce intero. Chiamami e trovi occupato, sono impegnato, sto costruendo un impero. Zio, Jake è il mismo di una Gran Turismo. Cresciuto a cristalli, cavalli, potenza tra le gambe, zio Sex Pistol. Lo sguardo ti ghiaccia la faccia, un flow che le casse le schiaccia, Detroit Pistons. In mano la clava di Fred Flintstone, seduto in ginocchio fra Bill Clinton. Oggi che i rapper non vanno più a tempo, scrivono favole senza senso. Io sottometto sto beat, Fedor e Melli Anenco, li appendo come ha fatto Tenco. Non siamo amici se abbiamo brindato, le tue tipe seguono il Chapo. El Chapo. Non prendono cash da una pompa, sono antifurto, c'ho il cazzo blindato. C'ho il cazzo blindato. A Milano respiri violenza, fra ci piove sangue dal cielo. Tu spari cazzate, non sei un pistolero, fra poi ti fai male davvero. Abbiamo coca, cash, oro, bianco, Mase, Ranch, Porsche, Lambo, Domper, Cristal, Moe, Shampoo, denti d'oro, Boss El Chapo. Sono stato in silenzio, non me ne sono mai andato. Scoppio al momento giusto come le bombe di Stato. Il rap è morto oggi, punto, e a capo. Tutti sull'attenti,
fornato. C'était El Chapo de Jake La Furia.
Du foot italien avec Ryan.
Donc, club du foot italien avec, sur le plan international, l'équipe de l'Italie a joué ses deux matchs de préparation pour l'Euro 2016. Le premier vendredi dernier, en recevant à Udine le champion européen en titre, l'Espagne, avec laquelle ils ont concédé un match nul 1-1. Ils se sont ensuite déplacés à Berlin sur la pelouse de la Mannschaft, qui n'a pas manqué d'honorer son statut de champion du monde, en infligeant une lourde claque à l'Italie 4-1. Côté national maintenant, avec la Serie A qui reprend ce week-end, où la Juventus de Pogba, actuellement leader avec 70 points, reçoit l'Empoli 11e au classement. Le Napoli de Maurizio Sarri, qui talonne la Juve avec 67 points, se déplacera lui sur la pelouse du d'Udinese. Et enfin, pour clôturer le podium, l'événement de cette 31e journée, l'AS Rome ira disputer le derby de Rome face à la Lazio ce dimanche à 15h. Un rendez-vous à ne pas rater. Pour finir cet actu foot italien, la petite histoire du jour, car il n'a fallu que 5 mois pour le jeune joueur syrien Amar Ramadan pour taper dans l'œil averti des recruteurs de la Juventus. Ayant fui la guerre dans son pays, ce jeune, âgé de 15 ans, s'est inscrit à son arrivée en Italie dans l'école polisportiva Simiano. Vite repéré, il a intégré les jeunes catégories de la Juve et a même marqué 13 buts en 5 matchs, ce qui n'a pas manqué de taper dans l'œil des plus grands clubs européens. Voilà, c'était l'actu foot proposé par Taleb Ryan en direct sur CFM Radio.
Alors les filles, comment une jeune fille italienne doit s'habiller un vendredi soir?
Pour un vendredi soir, una giovane signorina doit porter une jupe crayon taille haute Versace noire avec des escarpins vernis nude de 10 cm.
Avec un bustier court noir en dentelle accompagné d'un long gilet ayant la même longueur que la jupe et de même couleur que les escarpins.
Et pour finaliser cette tenue, une petite pochette Bordeaux vernis Prada.
Voilà les filles, vous avez tous les secrets pour vous démarquer des autres.
Merci de nous avoir écoutés, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Partez pas de suite. D'abord, bravo les jeunes d'avoir réalisé cette émission en direct, freestyle sur CFM Radio aujourd'hui. On a à peine débordé de quoi ? Une petite minute Aurélien, quelque chose comme ça ? C'est pas mal, bravo ! Allez, on s'applaudit.
Merci.
Bravo pour cette première émission que vous avez réalisée tout seul hein, pour le coup, parce que voilà, j'étais pas à l'animation micro, vous m'avez piqué ma place pour l'occasion. Et puis voilà, j'ai bien vu que parmi vous, il y en a qui sont peut-être prêts justement hein, à prendre ma place là. Faites gaffe quand même. Enfin, je vois bien qu'il faut que je fasse gaffe. Hein. Ok, voilà, peut-être un tout petit mot pour que les auditeurs comprennent bien avant qu'on se quitte. Monsieur le Président, Ryan, tu es le Président de la Junior Association, Solidarité United 82. Rappelle-nous un petit peu ce que vous faites.
Donc, on est un groupe de 15 jeunes Montalbanais. Donc, on réalise un échange avec 15 jeunes Marocains. Donc, notre projet, il s'est déroulé en deux phases. La première, où les Marocains sont venus ici... à Montauban, donc c'était au mois d'août dernier. Et la deuxième phase, c'est nous qui partirons là-bas au mois d'août prochain, cette fois. Et voilà, et donc on réalise une exposition le 15 avril voilà, à la Comète. Donc vous pouvez venir nous voir nombreux, on sera présents.
Allez, ben, on y sera le 15 avril. Bravo ouais. Encore une fois et
merci.
À la prochaine. Merci Aurélien pour la partie technique, c'était pas gagné non plus là hein, de cette émission. Vous pouvez dire merci à Aurélien.
Merci.
CFM